Ce matin, nous allons reprendre une série, je ne sais même pas si vous saviez que c'était une série que nous avions en cours, tellement ça fait longtemps. Nous avons commencé en mai dernier une série sur le livre de la Genèse. C'est une série un peu particulière puisque nous avons à la fois une série d'études bibliques et une série de prédications sur les mêmes textes. L'étude biblique nous permet d'étudier le texte, et ce sont des textes riches. Des textes riches qui posent des questions techniques. Et par exemple, ce matin, nous étudions le chapitre 2 de la Genèse. Il y a des questions techniques sur le dialogue avec la théorie de l'évolution. Ce sont des choses que nous abordons dans l'étude biblique. Dans la prédication, nous nous concentrons sur le message du texte. Et le message, ce n'est pas la même chose. Parce que ces textes-là ne sont pas des textes informatifs, ce ne sont pas des livres de science qui viennent nous expliquer comment ça s'est passé, mais ces textes-là, ils ont un sens pour le fidèle. Ces textes-là, ils nous apprennent comment être avec Dieu, comment le rencontrer. Ils sont utiles pour notre relation avec lui pour aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous le disais, nous avons étudié en mai dernier le chapitre 1 de la Genèse, le chapitre 1 qui raconte les débuts de notre monde, sa création par Dieu. Nous disions que ce texte remet les choses en perspective, qu'il nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres, mais qu'il y a un créateur au-dessus de nous, un créateur qui sait ce qui est bon pour nous et que nous devrions nous mettre à son écoute. Ce n'est pas pour rien que ce texte se trouve au tout début de la Bible, comme une introduction pour celui qui la lit. Le chapitre 2 que nous lisons ce matin est indissociable du chapitre 3. Mais en fait, je me rends compte qu'on n'a pas lu le texte. Donc, nous allons lire le texte. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 4 et jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 25. D'ailleurs, merci. Voilà la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés. Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Mais un flot montait de la terre et en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila où l'on trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est le Tigre. C'est celui qui coule à l'est de la Syrie. le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne. Mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je disais que ce chapitre 2 va de pair avec le chapitre 3 de la Genèse. Les deux marchent ensemble, les deux ont une unité narrative parce que ils nous racontent comment le monde, qui était bon, est devenu mauvais à cause du péché de l'homme. Nous lirons la suite prochainement. Nous l'étudierons le 17 novembre à l'étude biblique, mais la suite, vous la connaissez dans les grandes lignes. Le serpent qui tente la femme, qui vient prendre du fruit, en donne à Adam, et les deux se retrouvent dans une situation de péché et finalement expulsés du jardin. Donc, une unité narrative, chapitre 2 et 3, mais je crois que notre texte, chapitre 2, est aussi intéressant pour lui-même, qu'il a quelque chose à nous dire. Ce texte parle aussi de création. Et on peut se poser la question, pourquoi un deuxième récit après celui du chapitre 1 ? Et en comparant avec le chapitre 1, on voit aussi que les deux ne s'accordent pas. Il y a des différences entre les deux, des différences entre autres dans la chronologie. Alors, certains théologiens veulent en tirer la conclusion qu'il circulait plusieurs récits de la création, issus de plusieurs traditions, et qu'ils ont été regroupés dans un seul livre sans trop regarder leur qualité. Je ne pense pas qu'il faut prendre l'homme de l'Antiquité pour quelqu'un de plus stupide que ce que nous sommes et qu'il n'aurait pas vu ce que nous croyons être des contradictions. Je crois que s'ils sont ensemble dans la Bible, c'est qu'ils ne se contredisent pas. Mais ces deux textes poursuivent le but commun d'enseigner l'homme. En fait, la contradiction apparente de ces textes sur les événements de la création doit nous interpeller et nous montrer que leur intérêt n'est pas un intérêt de description scientifique, mais que leur intérêt est pédagogique. Ils sont là pour nous apprendre et pour nous guider dans notre relation avec Dieu. Ces textes nous enseignent d'autres choses que le déroulé des débuts de notre monde, d'autres choses qu'il nous faut découvrir. Et d'une façon générale, c'est une attitude que nous devons avoir avec la Bible, celle de ne pas venir y chercher les réponses à nos questions ou à nos préoccupations du moment, mais à venir écouter ce qu'elle nous dit. Dieu parle à travers sa parole. Écoutons-le. Alors, de quoi parle notre texte ? Notre texte est structuré autour de deux questions, de deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y avait aucune végétation de la campagne. Et le deuxième, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Deux problèmes dans notre récit. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui tâtonne, qui n'arrive pas à faire bien du premier coup? Est-ce que c'est ça le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur? Il s'agit, bien entendu, d'un procédé de l'auteur. Quand on a lu avant Genèse 1, on sait que la création est très bonne. Le récit de Genèse 1 se termine même en disant qu'elle est très bonne. Ces questions, ces problèmes du chapitre 2 sont là pour nous interpeller et nous faire comprendre quelque chose. La première chose, ce premier problème, qu'il est impossible de faire pousser de la végétation sans l'homme, attire notre attention sur le fait que la terre a besoin de l'homme. La création a besoin de l'homme pour l'entretenir. Il nous est dit que cette végétation ne peut pas pousser sans la pluie, mais qu'elle ne peut pas pousser non plus parce que l'homme n'est pas là pour s'en occuper. Il ne manque pas d'eau puisque nous avons lu au verset 6 qu'un flot est présent et qui irrigue toute la terre. Mais il manque l'homme pour canaliser cela et que la végétation se mette en route. Mais plus encore que cela, ce texte nous apprend que l'homme a un mandat pour s'occuper de la terre. La préoccupation écologique du croyant, elle n'est pas seulement de prendre soin de la création de Dieu. C'est aussi en prendre soin parce que Dieu nous le demande, parce que Dieu nous a créés pour cela. C'est ce qu'on voit dans ce texte, que l'homme a été créé pour la création, pour prendre soin de cette terre. Je crois que ce texte nous apprend également que l'homme a besoin d'une activité, qu'il a créé pour être actif, qu'il a été créé pour rentrer dans un projet. Dieu a un projet pour sa création, un projet de développement, ici de développement de la végétation, et il y associe l'homme. En travaillant, l'homme participe à une œuvre plus grande, qui donne du sens à son existence en s'impliquant dans un projet. Un Dieu tout-puissant aurait pu s'occuper de son monde tout seul. Mais il choisit de donner un rôle à l'homme, un rôle qu'il exécute par son travail. Le travail est important pour l'homme. Parfois, on dit que le travail, c'est une malédiction, conséquence de la chute et du péché. Ce texte nous dit que non. Le travail était là avant la chute. Et le travail est aussi bienfaisant. Et ceux qui traversent des périodes de chômage peuvent en témoigner que ne pas avoir d'activité, c'est quelque chose de perturbant. Deuxième chose à comprendre dans ce texte, deuxième problème, l'homme n'est pas fait pour être seul. Et ce n'est pas lui qui se plaint, c'est Dieu qui le dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans notre texte, le Créateur tâtonne pour trouver une solution à ce problème. Certains trouvent à ce texte des accents misogynes. Je ne crois pas. Au contraire, même. Ce texte décrit la femme comme un vis-à-vis, une aide. Alors, une aide, ce n'est pas une auxiliaire, ce n'est pas une assistante en retrait qui exécute. Le mot hébreu qui est utilisé et qui est traduit ici par aide est utilisé ailleurs dans l'Ancien Testament et il est parfois utilisé pour désigner Dieu comme l'aide de son peuple ou le secours. Donc la femme est un vis-à-vis. C'est ce qu'elle représente pour l'homme. Et plus encore, le défilé de tous les animaux avant la création de la femme vient nous montrer que seule la femme pouvait convenir. Ce n'est pas faute d'avoir essayé autre chose. Toute la création est passée en revue, mais pour un homme, aucun de ces êtres ne peut être un vis-à-vis. Cette femme est celle qui permet à l'homme d'être complet. Et cette femme alors, quelle est-elle ? La femme, c'est celle qui est à la fois semblable et tout autre. Semblable, on le voit au verset 23, quand l'homme dit « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. » Il reconnaît qu'elle est semblable. Et pourtant, elle est tout autre. Le texte nous dit qu'ils étaient tous les deux nus, et quand ils se sont trouvés l'un en face de l'autre, je suis certain que leur différence leur a sauté aux yeux. C'est le vis-à-vis parfait, à la fois semblable et différent. On peut dire un mot sur le verset 24, un verset célèbre pour son utilisation dans les mariages, mais aussi dans son utilisation dans la Bible, puisqu'il est repris par Jésus, il est repris par Paul, il est repris plusieurs fois. Ce verset qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce verset, c'est un commentaire de l'auteur de la Genèse, un commentaire que lui inspire cette situation. Un commentaire qui explique à partir des origines, à partir de ce besoin de vis-à-vis, ce qu'est le mariage. Le mariage, c'est un triple mouvement. Tout d'abord, quitter non seulement ses parents, mais tout ce qui m'a formé jusqu'ici, tout ce que je suis. Quitter pour m'attacher, choisir un autre et choisir de l'aimer, quelles qu'en soient les circonstances. Et puis, au-delà, devenir une seule chair. Façonner un projet qu'on nourrit à deux. L'exigence du mariage est particulièrement exigeante. Et on le voit dans Matthieu 19, quand Jésus cite ce texte aux pharisiens, les disciples qui le voient après lui disent « Dis donc, si c'est ça, s'il n'est pas avantageux de se marier. » Je ne crois pas que ce texte de la Genèse dise ici que le mariage est le but de l'homme. Mais je crois qu'il dit à ceux qui veulent vivre ensemble que c'est selon ces règles que ça se passe. Je crois aussi que ce texte dit que tout homme a besoin de vis-à-vis, même si son vis-à-vis n'est pas aussi intime que ce qu'on peut vivre avec un conjoint. Le chapitre est conclu par le verset 25. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et la femme, et ils n'en avaient pas honte. Ce verset nous décrit l'état bon dans lequel ils sont. Le fait qu'ils soient nus ne se rapporte pas seulement à la nudité, mais je crois qu'il va plus loin, qu'il nous indique qu'ils se tiennent l'un devant l'autre, l'un avec l'autre, sans artifice, sans cacher qui ils sont vraiment, mais en pleine confiance, acceptés tels qu'ils sont. C'est l'harmonie. Je reviens à nos deux problèmes. Par ces procédés stylistiques, l'auteur interpelle l'auditeur. Il lui dit « Regardez la terre. Sans l'homme, elle ne produit rien. Et l'homme est créé pour l'entretenir. » Regardez l'homme. Sans vis-à-vis, l'homme n'y arrive pas. Et la femme lui est donnée pour le compléter. Mais je disais aussi que ce texte forme une unité avec le chapitre 3. Il nous parle de la chute. Tout cela a été perdu. À quoi ça sert de ressasser ces vieilles histoires, sinon nous donner du regret? À quoi ça sert? Et c'est là que j'aimerais regarder un autre élément de notre récit. C'est le jardin. Le texte nous décrit un jardin en Éden et nous donne même une description de sa localisation. Ça permet d'essayer de le placer sur une carte. On nous dit que le jardin se trouve à un endroit où il y a quatre fleuves. Dans la description des fleuves, on connaît le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre ici, l'Euphrate, qui sont des fleuves qu'on connaît encore aujourd'hui, des fleuves qui ont leur source près du lac Van, en Arménie actuelle. Le texte nous dit au verset 10 qu'il sort un fleuve qui se divise en quatre bras. En fait, si un observateur est placé dans le pays d'Éden et regarde, tourné vers la source, le fleuve ici se divise en plusieurs bras. Donc, nous, on connaît le Tigre, l'Euphrate. Gidon contourne le pays de Couch et on peut penser qu'il s'agit d'un des nombreux affluents du Tigre, peut-être ici. Quant à Pishon qui contourne le pays de Avia, sans doute à l'ouest, on a retrouvé le cours d'un ancien fleuve, aujourd'hui asséché, qui pourrait correspondre. Avec cette description, on est capable de placer le jardin d'Éden sur une carte près du golfe Persique. Mais est-ce que ce récit nous parle d'un petit coin, d'une oasis près du golfe Persique? C'est là que je vous parle des temples et de leur décoration. À cette époque, dans l'Antiquité, les temples sont décorés comme des jardins. Je vous passe les descriptions des temples égyptiens, mais si on regarde la description du temple de Salomon, on voit cette volonté de ressembler à un jardin. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et des fleurs épanouies. Les murs intérieurs et extérieurs des battants et du secret étaient couverts avec des branches de palmiers et des fleurs épanouies. Il fit les grenades en deux rangs pour couvrir le chapiteau de chaque colonne. Sur les panneaux et sur les montants, il y avait des lions et des bœufs. Et ce verset, tout était en cèdre, on ne voyait aucune pierre. C'était ça dans le temple de Salomon, le but ultime, qu'on ne voit aucune pierre, qu'on se croit dans la nature. Chercher quelques reconstitutions de ce temple, on voit à l'intérieur les murs décorés, selon la description qu'on trouve dans Un Roi, les colonnes avec leurs fruits, comme des arbres fruitiers qui sont là. Une autre image qui nous montre cette impression de végétation dans le temple. Ainsi donc, les temples sont faits pour être comme des coins de nature, comme des jardins. Mais la comparaison entre Éden et le temple va même encore plus loin, parce que si on réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'un temple ? Le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu parmi les hommes. C'est dans le temple que l'on va pour rencontrer Dieu. C'est le lieu de sa présence, comme l'était le jardin d'Éden. Ou plutôt, le jardin d'Éden est encore mieux le lieu de la présence de Dieu, puisque Dieu s'y promène, puisqu'on peut le rencontrer face à face au détour d'un chemin, qu'on peut lui parler directement. Alors que dans le temple, seul le grand prêtre peut entrer dans la présence de Dieu, et encore une fois par an, après moult purifications. Le jardin, c'est donc le lieu parfait de la présence de Dieu. C'est le temple parfait. Ou plutôt, le temple, c'est la tentative de retrouver le jardin perdu. Celui où l'homme était pleinement dans la puissance de Dieu. Du coup, ce que je vous raconte, c'est pire encore. Non seulement on a perdu le plaisir dans le travail, qui est devenu difficile, non seulement on a perdu l'harmonie des relations et de vis-à-vis on passe à une situation de domination subie, mais en plus on a perdu la présence de Dieu. Sauf que Jésus est passé par là. Sauf que Jésus, par son sacrifice, vient réconcilier Dieu avec ceux qui le suivent. Et il nous donne à nouveau accès à la présence de Dieu. Cette présence, nous la connaîtrons au retour de Jésus. La Bible l'affirme, nous savons en effet que Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc, nous la connaîtrons après la résurrection, mais plus extraordinaire encore, nous pouvons la connaître dès aujourd'hui. Autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort, son corps humain, pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Alors bien sûr, ce n'est pas pareil que le jardin d'Éden. La présence de Dieu que nous connaissons aujourd'hui est incomplète. Elle est sans commune mesure avec ce que nous vivrons après le retour de Jésus. Mais nous pouvons déjà l'expérimenter et y goûter. C'est la tension qu'il y a entre le déjà que nous vivons aujourd'hui et le pas encore des choses à venir. Et dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce déjà, eh bien nous retrouvons le temple. Parce que dans le Nouveau Testament, l'image du temple est souvent utilisée. on trouve le temple comme description de la présence de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. On trouve le temple comme description du corps du croyant, qui est le temple du Saint-Esprit. Et puis, on trouve le corps, le temple, comme description de l'Église, le corps du Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et dans tous ces temples, nous pouvons retrouver déjà un peu de l'harmonie originelle perdue. Ainsi, nous-mêmes, temple corps du croyant individuel, nous pouvons travailler pour vivre notre travail avec joie, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, nous dit la Bible. Nous pouvons vivre des relations harmonieuses, suivant les enseignements de Jésus, avec un vis-à-vis. Mais c'est sur le temple Église que je voudrais m'arrêter. Parce que dans l'Église, nous retrouvons aussi un peu de ce que nous avons perdu. Dans l'Église, nous retrouvons la présence de Dieu, nous l'avons vu. Mais nous retrouvons aussi notre vis-à-vis. Dans l'Église, Dieu nous donne des frères et sœurs à la fois semblables à nous et tellement différents. Qui n'a jamais regardé sa sœur, son frère, avec étonnement, se demandant mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait ça? Nous sommes tellement différents. Et pourtant, nous sommes semblables, tous des hommes, rachetés par grâce par notre Sauveur. Et dans l'Église, nous sommes appelés à vivre des relations différentes, pas à vivre entièrement nus, comme dans le verset 25 de notre chapitre, mais des relations étroites, emplies de l'amour du Seigneur, sans fard. Dans l'Église, nous trouvons aussi une tâche. Si vous fréquentez notre Église, vous le savez, je ne veux pas faire de répétition. Nous travaillons à l'œuvre du Seigneur. Pour reprendre le vocabulaire de notre week-end d'Église, nous avons un ministère à exercer. Dans l'Église, nous retrouvons la joie de participer à une œuvre plus grande, à l'œuvre de Dieu, d'apporter notre contribution à l'œuvre du Seigneur. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire que l'Église, ce n'est pas si rôle, ce n'est pas si rose. Servir dans l'Église, ce n'est pas toujours facile. Des fois, c'est bien des frustrations. Des fois, c'est de la non-reconnaissance, c'est de la fatigue, c'est faire face à l'échec. Des fois, on ne trouve pas sa place, on ne se sent pas utile. Mais je crois que par son esprit, Dieu nous conduit dans cette voie et nous transforme. Et je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire sur cette terre, travailler avec Dieu pour son œuvre éternelle, pour amasser avec lui des trésors dans le ciel. Il en va de même pour nos frères et sœurs, c'est pas toujours facile. Qui peut dire qu'il est à l'aise avec chacun de ceux que Dieu a ajoutés à cette Église? Et encore, elle est petite. Des fois, c'est de l'incompréhension, c'est de l'énervement, c'est de la déception, c'est des blessures. Des fois, on se demande vraiment si ça va être possible de travailler ensemble. Mais je crois que par son esprit, Dieu nous transforme et vient apporter l'amour pour nos frères et sœurs. Il nous aide à dépasser nos barrières et à vivre l'unité avec lui. Et alors, quelle joie, quelle victoire remportée sur nous-mêmes et sur notre égoïsme. il faut, je crois, jouer le jeu. La Bible, et en particulier les Épîtres, regorgent de conseils pour bien vivre l'Église. Cherchons à les appliquer. Cherchons à les appliquer avec soumission à la parole de Dieu et avec l'aide de l'Esprit qui nous transforme dans ce sens. Avançons avec persévérance dans cette voie, non pas par contrainte, mais pour goûter à la nouvelle vie qui vient. Oui, l'Église, ce n'est pas encore la perfection, mais c'est déjà la présence de Dieu sur terre. Ce n'est pas le paradis sur terre, mais c'en est l'avant-goût. Nous avons fait un voyage ce matin un peu vaste. Et au moment de conclure, j'essaye de résumer. Le récit de Genèse 2 nous montre ce dont nous avons besoin. L'homme a besoin d'un travail, d'une activité, d'un projet pour donner du sens à sa vie. L'homme a besoin d'un vis-à-vis pour avancer. Et surtout, l'homme a besoin de la présence de Dieu. Et tout ceci, nous l'avons perdu dans sa perfection, dans son harmonie, depuis la chute. Le travail est devenu pénible, les relations sont perverties et compliquées. Quant à la présence de Dieu, nous en avons été chassés. Mais Jésus nous permet de retrouver tout cela. Il nous permet de le retrouver pleinement lorsqu'il reviendra et qu'il régnera sur terre. Mais il nous le permet aussi de le trouver dès aujourd'hui, et ce, entre autres, dans l'Église. Certes, de façon incomplète, mais déjà un bel avant-goût de ce qui est à venir. Et si j'avais un conseil, ce serait celui de vous inviter à vivre l'Église pleinement, à jouer le jeu de l'amour fraternel, de cet amour profond, tel que le décrit la Bible. Cet amour qui place l'intérêt de l'autre avant le sien. À jouer le jeu du service du Seigneur, à chercher le don qu'il vous a donné, à chercher votre ministère et à le vivre dans la joie, pour le Seigneur et non pas pour les autres. Dieu met l'Église à disposition de tous ceux qui le souhaitent. En attendant son retour, vivons-la pleinement. Retrouver Éden, ce n'est pas pour tout de suite. Mais on peut commencer. Ici, maintenant. Je vous invite à la prière. Seigneur, je suis émerveillé de voir comme tout dans la Bible se tient, comme tu as un plan et que tu le mènes à bien. Et Seigneur, j'aimerais te prier que tu nous aides à nous y inscrire, que tu nous renouvelles notre enthousiasme pour te suivre, pour prendre les choses bonnes que tu as prévues pour nous, pour pouvoir faire ta volonté. Aide-nous à vivre comme des hommes tels que tu les as voulus, des hommes et des femmes qui prennent plaisir dans leur activité, qui voient un sens et qui y voient le moyen de te servir. Des hommes et des femmes en relation harmonieuse avec les autres. Transforme-nous par ton esprit dans cette direction et donne-nous la joie d'être dans ta volonté en attendant ton retour. Je te prie au nom de Jésus. Amen.